vous avez ? Pardon ?
Le titre, moi j'avais philosophie comme régulateur du progrès, c'est pas ça ?
Ah non, alors là, oui, alors là, vous êtes. D'accord.
Bonjour.
C'est-à-dire que là, vous êtes sur un programme, qui était un programme en début d'année, qui a été modifié.
Ah, voilà.
Voilà. Parce qu'on avait, on avait des ateliers thématiques, effectivement, avec des thèmes déclinés tout au long de l'année, hein, qui ont été remplacés par une formule qui intéressait plus donc les participants, formule qui se suit, hein, sont des séances qui visent un objectif qui va se dérouler d'une séance à l'autre.
Donc le programme que j'avais compris, il ne correspond plus ?
Non, non. Le problème que vous avez des différents ateliers, des ateliers thématiques, qui étaient des ateliers où on discutait, chacun donnait son opinion, ont été remplacés par une formule, disons, plus didactique. Hein. L'atelier économique, on étudie l'œuvre de Nicolas Georges-Reagan. Bon, c'est des lectures commentées. Et puis, le deuxième atelier qu'il y a après, on fait une analyse critique de la Constitution française, avec les quatre textes qui la composent. Donc, voilà. Alors, pour faire un petit résumé, ben le livre que nous étudions, c'est le livre qui s'appelle « La décroissance, demain la décroissance » de Nicolas Georges-Reagan. Vous connaissez peut-être ? Ouais. Il est disponible.
C'est pas ma passion,
comment ?
C'est pas ma passion, mais je l'ai lu. J'ai lu beaucoup de choses sur la décroissance.
D'accord. Vous connaissiez Reagan ?
Le nom d'Ikichon, ouais.
D'accord. Alors, on a. Je ne sais pas s'il est en libre accès sur le site, mais tous ceux qui s'étaient inscrits à l'atelier, on leur a communiqué le document. Qui est en libre consultation, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Les ayants droit nous laissent tirer le document aussi bien en PDF qu'en Word. Voilà. Bon, donc, ce qu'on avait commencé à voir avec Jacques, c'est suite à la question que j'ai posée de savoir si, compte tenu des séances qu'on a eues jusqu'à présent, est-ce qu'il y avait des questions qui méritaient d'être approfondies, de faire un petit point par rapport à, je crois que c'est le sixième atelier qu'on fait, faire un petit point sur où on en est, les notions qu'on a abordées, qu'on a découvertes, le principe de la thermodynamique, le premier principe, le deuxième principe, le principe de l'entropie. Est-ce que, voilà, avant de continuer la lecture commentée, est-ce qu'il y a un petit point à faire sur des réflexions qui n'auraient pas été suffisamment développées ?
Ça s'enchaîne, quoi.
Oui. Voilà. Alors Jacques disait, et il pose toujours les bonnes questions, c'est toujours intéressant. Ce qui importe maintenant, c'est de voir ce qu'il faut faire. Parce que, après s'être plongé de façon très précise dans les écrits de Reagan, on comprend bien qu'on a un très très gros problème de fond, et pas un problème de forme ni un problème extérieur, et donc qu'est-ce qu'on fait ? Bon, là, je dirais que c'est la question qui nous fait passer à la politique.
Oui.
Et qu'on avait dit que dans cet atelier, voilà, on restait sur l'économie. Ça veut dire que les questions qu'on se pose, elles doivent être de nature économique et pas encore de nature politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour remédier ou quelle parade on peut avoir. Voilà. Et parmi les questions, enfin, les deux directions qu'on peut prendre, c'est chaque fois qu'on débat d'un thème dont parle ce bouquin, c'est savoir si les arguments qui sont exposés d'abord sont bien compris et si on est d'accord avec ces arguments, est-ce qu'il n'y a pas une faille, Hein, est-ce que voilà, faire le contradicteur par rapport à ça. Et également voir si la contradiction qu'on peut, par exemple, la semaine dernière, on a parlé du recyclage. Hein, on a fait ce diagramme du recyclage en disant que le recyclage, eh ben, il était, c'était mission impossible. Voilà. Eh bien, est-ce que on peut contredire ça? Est-ce qu'il y a des écrits? Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur le fait de dire que on peut
des gens qui ont trouvé le mouvement perpétuel, mais c'est que sur YouTube quoi, ça marche pas. Je veux dire, il y a toujours des gens qui ont trouvé un truc et qui disent, ah putain, ça marche tout seul, c'est formidable.
Oui. Mais... non mais ça n'empêche pas d'en parler. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ça, je pense que c'est intéressant, chaque fois qu'on est sur une assertion qui paraît incontournable, parce que c'est comme ça qu'on aborde les problèmes scientifiques, et on n'est pas là pour faire de la physique, mais pour faire de l'économie. L'économie, elle a un côté scientifique aussi, c'est de voir si ça résiste à la contradiction.
C'est-à-dire, comme tout se monnaie, je me dis que s'il y avait eu quelque chose, des pistes viables, eh bien, ça serait quand même. Alors, je parle pas de YouTube, parce qu'il y a à boire
et à manger. Bien sûr, bon là.
Et tant mieux, hein. Moi, c'est ce que je me dis, donc c'est pas positif en soi.
Hein, non, mais ça, c'est ce que tu dis, c'est la logique même. Oui. Hein, bon, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à chercher à se contredire, à se faire contredire. Il faut être demandeur de contradiction, il faut essayer de voir, quand on pense, quand on dit on croit à quelque chose, c'est pas qu'on y croit de façon religieuse, c'est qu'on a bien étudié, qu'on est arrivé à cette conclusion. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'essayer de la contredire?
Ouais, moi j'ai essayé de le faire, hein, je t'ai donné une amorce de réflexion en disant mais ok. Ce qu'on dit est vrai dans un système fermé, mais la Terre n'est pas vraiment fermée, quoi. Ben oui, mais... Après, on a vu que l'énergie solaire, on avait pour l'instant pas des moyens de la récupérer à 100%, quoi. C'est du 10% maximum.
Oui.
Voilà, donc...
ça veut dire que si tu peux récupérer 10%, c'est pas du ciment, ça avance, quoi. On apprend à marcher à ce niveau-là, donc on se dit que peut-être dans 50, 100 ans, on n'arrivera pas à prendre d'un coup de plus. Quoi. Si on peut prendre 10%, on prendra pourquoi pas 100%.
Non, mais oui, mais par contre, moi ce qui me perturbe, c'est la disparition des
matières premières.
Des métaux.
Là, ok, l'énergie, on est capable de.
Bon, ça, on ne le voit pas. Ce que je voulais simplement dire comme ça en intro, c'est que chaque fois qu'on a une assertion, hein, essayez de voir comment on peut la contredire.
Hein. Ce qui serait bien, c'est qu'en parallèle de Regan, peut-être, c'est justement d'avoir un livre, d'étudier en même temps un livre qui dit le contraire de ce qu'il dit. Du coup, pour pouvoir mettre en...
Alors, si vous avez lu, c'est vraiment passionnant à lire. Hein. Bon, après, je dirais la fin du bouquin, c'est un peu technique, d'ailleurs, on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais presque, il faudrait lire chaque phrase. Voilà. Bon, Roigen a cette qualité dans l'argumentation, c'est qu'il dit il y a des contradicteurs, c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Donc, il cite les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit, et donc on peut aller les voir. Il y a très très peu de gens qui développent une théorie ou une argumentation qui ont, je dirais, cette méthodologie critique qui est de dire je suis en train de vous dire quelque chose, enfin je vous fais une démonstration et j'imagine qu'on peut la contredire. Oui, par exemple, on pourrait dire ça. D'ailleurs, un tel l'a dit. Mais je ne suis pas d'accord. Et il démontre ce que un tel a dit. En tout cas, il nous donne les références pour aller voir. Ça, c'est quand même une honnêteté intellectuelle et une rigueur scientifique qui est assez remarquable. Je vais allumer un petit peu parce que pour voir. Okay. Donc après le recyclage, Rogen commence à nous parler, il va introduire l'agriculture. Il nous indique que la croissance démographique n'a été possible qu'avec l'instauration de l'agriculture industrielle, ou que l'agriculture industrielle a permis l'augmentation démographique. Bon, ça marche dans les deux sens. Et la solution donc, est préconisée par pour arriver à augmenter cette capacité démographique, ça consiste à rechercher une mécanisation accrue de l'agriculture. Mais voyons ce que cette solution, c'est-à-dire la mécanisation de l'agriculture, signifie en termes d'entropie. Donc la mécanisation de l'agriculture, mécanisation et industrialisation, c'est pas que l'industrialisation de l'agriculture, c'est pas uniquement la mécanisation, bon, il en parle plus tard, hein, c'est également tout ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les additifs à la terre, en termes de fertilisants, les engrais qui sont faits à partir des hydrocarbures, notamment du gaz, et puis les produits phytosanitaires, herbicides, fongicides, pesticides, etc. Donc toute cette industrialisation de l'agriculture, elle amène une augmentation, elle a amené, bien entendu, une augmentation des rendements. Alors il faut voir que ça a été concomitant avec un instant historique très très précis. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une nécessité de reconstruction de toutes les grandes nations, et dans la foulée du plan Marshall, et avec aussi l'argent du plan Marshall, il a été décidé au niveau mondial que jamais plus il y aurait de famine, entre parenthèses, dans les pays développés. Bon, il n'y a pas de famine en Afrique, bon, ça c'est vrai. Hein, enfin, non, disons, nous autres de l'OCDE, on a gagné la guerre, on a maintenant le pétrole qui va nous permettre de développer une civilisation très 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 sophistiquée, très évoluée. On ne veut plus qu'il y ait de
famine.
Alors ça, c'était, disons, le discours humanitaire bien pensant, mais derrière, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, il faut qu'il y ait une nourriture, écoutez bien, il faut qu'il y ait une nourriture abondante et bon marché, devinez pourquoi.
Il ne faut pas que ça coûte cher de fabriquer de la nourriture.
Il faut qu'il y ait une nourriture abondante, alors, il faut bien voir, en 1945, hein, le monde occidental installe définitivement le capitalisme croissanciste.
Oui.
Bien. Ouais. Et il dit, entre autres, à mon avis, c'est une des bases les plus importantes, il dit la nourriture doit devenir abondante et bon marché.
Mais pour éviter les révolutions, toutes les grandes révolutions, elles sont parties quand même pour des problèmes.
Absolument. Alors, il y a ça, mais ça, c'est, je dirais, ça, on achète la paix sociale. Hum. Bon, pour avoir avoir un système politique croissanciste capitaliste où en fait les marchands vont pouvoir faire les bénéfices dont ils ont besoin, il faut effectivement qu'il y ait la paix sociale. Pour qu'il y ait la paix sociale, il ne faut pas qu'il y ait de famine, il ne faut pas qu'il y ait de jacquerie. 1789, c'est les émeutes de la faim. Bon, donc qu'il n'y ait pas de jacquerie, il faut que tout le monde ait à manger. Bon, ça, c'est, je dirais, le minimum.
Mais il faut mécaniser, il faut que les gens s'endettent, les agriculteurs, voilà. Il faut qu'ils...
Alors, on chauffe,
il faut qu'ils investissent dans du matériel, donc ils vont faire marche des usines,
oui.
Ils vont, au niveau des banques, emprunter ou autre, plutôt que...
Ouais.
Ils sont indépendants des banques, alors qu'avant, à la limite, l'agriculteur était plus ou moins...
Oui, les agriculteurs, on va les endetter. Oui, d'accord, mais c'est pas essentiel.
C'est tributaire de certains, en échange...
Après, il y a les semences, c'est pas...
Les agriculteurs.
Oui.
Oui. Les agriculteurs, bon, c'est vrai, les agriculteurs, ça va devenir 2-3% de la population. C'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant lorsque les grandes puissances disent la nourriture doit devenir abondante et bon marché, c'est pour libérer tout le reste du budget pour la consommation des produits du capitalisme. Bon. Parce que dans une économie vivrière, ben vous avez 80%, 90% du budget qui est consacré à la bouffe. Bon, dans une économie développée, capitaliste, croissanciste, bon, il n'y a plus que 10, 15%, voire moins, le moins possible en tout cas, du budget, si on pouvait même qu'elle soit gratuite, que tout le salaire puisse être transformé en bien de consommation issu de l'industrie. Bon, donc, effectivement, la mise en place de l'agriculture industrielle, ça a deux objectifs. Un objectif politique, social, assurer la paix sociale, enfin, faire en sorte qu'il y ait, en tout cas, aucun bouleversement social qui vienne du fait que les gens ont faim, et puis que la nourriture soit un produit qui n'est plus aucune valeur marchande, c'est tellement bon marché que tout le monde peut se nourrir sans que ça coûte beaucoup dans le budget. Donc, on met en place l'agriculture industrielle. Alors, ça, c'est donc formidable. Hein, ça fait, alors, en plus des deux fondements qu'on vient de citer, il y en a un troisième qui est bien entendu articulé, parce que tout ça marche ensemble, c'est l'augmentation démographique. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que l'agriculture industrielle permet l'augmentation démographique parce qu'il y a 10 fois plus de nourriture, donc il peut y avoir 10 fois plus de gens. Hein. Quand il y a à manger pour 10, on ne peut pas être 11. Par contre, quand il y a à manger pour 11, on peut être 11. Et quand il y a à manger pour 50, on peut être 50. Mais cette augmentation démographique, à quoi elle sert? Elle sert à augmenter le nombre de consommateurs. Et donc le nombre d'acheteurs des produits de la société industrielle. Donc tout se tient.
Oui, madame.
L'agriculture est pourvoyeuse, l'agriculture industrielle est fabrique des consommateurs pour l'industrie capitaliste croissanciste.
On est dans un poulailler, alors, on est considéré comme une pondeuse.
Ah ben oui, oui, c'est-à-dire que. C'est une image extraordinaire, parce qu'on est finalement, c'est vrai, comme dans les poulaillers industriels, parce que quand on regarde en ville, on est quand même. Hein, c'est Souchon qui faisait une chanson dans les poulaillers, les poulaillers sang. Voilà. On est nourri. Avec un peu comme les granulés des poulets industriels, et on est consommateur, ensuite on va consommer les trucs. Bon. Donc ça c'est... Alors, au niveau du paradigme économique du capitalisme consensuel, c'est formidable. Maintenant, rien n'est dit, mais qu'est-ce que ça donne en termes d'entropie? Qu'est-ce que ça donne en termes d'entropie? Voyons un peu. Puisque là, on n'est plus, comme on a dit, dans la recherche unique du gain financier. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, si j'entreprends une action en tant qu'individu agissant, si j'entreprends une action, c'est parce qu'il y a un gain financier. Bon, alors, de ce point de vue-là, ça marche, c'est formidable. Alors là, c'est une réussite. Bon. Par contre, qu'est-ce que ça donne en termes d'entropie?
Ah, là, c'est pas bon du tout.
Là, on va voir.
Il y a une augmentation d'entropie au niveau de la Terre.
Alors, en premier lieu,
c'est clair.
Du fait de l'élimination du partenaire traditionnel fermier, l'animal de trait, la mécanisation de l'agriculture permet de consacrer toute la surface cultivable du sol à la production de nourriture et au fourrage seulement dans la mesure requise par le besoin de viande. Mais le plus important, c'est qu'il en résulte, dans l'apport de basse entropie, un déplacement de la source solaire vers la source terrestre. Le bœuf ou le buffle, basse entropie, dont la puissance mécanique procède du rayonnement solaire, capté par la photosynthèse chlorophyllienne qui l'ingère. Donc, basse entropie, on a une agriculture qui fonctionne et qui ne fonctionne pas à basse entropie, puisque le bovin, il se nourrit de la synthèse chlorophyllienne les plantes sont négentropiques, c'est-à-dire qu'elles transforment l'énergie solaire, voilà, bon, elles ne la dissipent pas, elles capturent l'énergie solaire qui sans elle serait dissipée, donc elles font diminuer l'entropie, donc c'est formidable. Et remplacé par le tracteur, qui lui est fabriqué et actionné au moyen de basse entropie terrestre, parce qu'il consomme la basse entropie. Le tracteur, il consomme du fer. Donc, hein, il dissipe du fer, il dissipe de la basse entropie. Un joli minerai de fer bien harmonieux, bien cohérent. Bon, il se dissipe au fur et à mesure qu'il fonctionne dans le tracteur. Et puis, le tracteur dissipe du gasoil. Voilà. Donc, il crée en permanence de la haute entropie. Il en va de même pour ce qui concerne le remplacement du fumier par les engrais artificiels. Bon, le fumier, c'est le retour à la terre de ce qui a été mangé. Par exemple, on est dans un circuit qui ne crée absolument pas d'entropie, de haute entropie. C'est transformé par les engrais. Les engrais, c'est fait à partir d'hydrocarbures, à partir de gaz. Et donc, chaque fois qu'on fabrique un kilo d'engrais, ben, on enlève de la basse entropie. Donc, l'agriculture industrielle, on ne parle pas des pollutions, des produits toxiques, etc. C'est simplement en termes d'équilibre thermodynamique. Multiplie la dissipation de l'énergie et de la matière.
En plus, on appauvrit la Terre.
Oui, alors.
Donc, il y a bien une augmentation d'entropie encore de la Terre.
Alors, non ? Alors là, au niveau. Oui. La dégradation des sols arables, c'est-à-dire le fait qu'au départ, on a un humus qui est très, très riche en micro-organismes, etc. Et puis qu'au bout de 10 ans de NPK et de tassement par les gros engins et de labour, on fait remonter la mauvaise terre sur la bonne terre, hein, comme dirait Lydia Claude Bourguignon, eh bien on a un sol complètement dégradé. Bon. C'est pas tellement là une question de basse entropie. Sauf par le ravinement. Il en parle un petit peu plus loin.
Le ravinement,
c'est-à-dire que le sol qui n'est pas travaillé. Et d'ailleurs, dans les prescriptions de permaculture ou d'agriculture, on conseille de ne pas labourer le sol, simplement de le gratter. Le système industriel des labours profonds, indépendamment de ce qu'on a dit, il détruit la souplesse, et puis surtout les radicules qui tiennent la terre en surface et qui empêchent le ravinement, qui empêchent l'érosion. Donc les sols qui sont travaillés, on les voit, qui sont plat comme la main une fois que le tracteur est passé, mais c'est que de la terre à nu, alors un puits de carbone, extraordinaire. Bon, mais là, on est dans. On a effectivement, alors en termes d'entropie, on a du sol qui s'en va. Du sol qui s'en va. Alors, premier principe de la thermodynamique, rien ne se perd, rien ne se crée, et donc il ne disparaît pas, mais il n'est plus utilisable. Hein, et là, on est bien dans la définition de l'entropie. Qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure de l'énergie qui n'est plus utilisable ou de la matière qui n'est plus utilisable, puisqu'on sait que matière et énergie, c'est la même chose, quelque part. Difficile de passer de l'un à l'autre, mais enfin, bon, c'est la même chose. Donc, effectivement, lorsque on a une agriculture qui n'est pas industrialisée, on a un maintien du sol qui est ce qu'il est. Bon. Par contre, les façons culturales modernes font qu'il y a une dissipation du sol qui petit à petit s'en va. Et donc là, effectivement, on a on a parlé du tracteur, hein, mais le sol lui-même, il subit une dégradation anthropique. Par conséquent, la mécanisation de l'agriculture est une solution qui, bien qu'inévitable dans l'impasse actuelle, enfin bon, ça c'est de l'avis des capitalistes processistes, doit être considérée comme anti-économique à long terme. Elle entraîne, pour l'existence biologique de l'homme, une dépendance toujours croissante à l'égard de celle des deux sources de basse entropie qui est la plus rare. la plus rare. Il y a deux sources de basse entropie. Hein. C'est la source, nous a dit, la source du flux et la source de stock. La source la plus rare, c'est la source de stock. C'est-à-dire, c'est tous les minerais qu'il y a dans les corps terrestres. La source la plus abondante, mais qu'on ne sait pas capturer, alors on revient sur ce que tu disais, c'est le flux solaire. Bon. Eh bien, l'agriculture non industrielle était dépendante du flux solaire. Donc de l'énergie, enfin donc de la source de basse entropie la plus abondante, inépuisable. On parle des énergies renouvelables, mais le soleil, c'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie inépuisable. On peut taper dedans autant qu'on veut. Donc, le bœuf qui se nourrit de la synthèse chlorophyllienne et puis qui tire une charrue avec un soc en bois, ça peut durer des millénaires.
Faut changer de bœuf.
Bon, parce que il tape pas du tout, il crée pas du tout d'entropie. Bon. Et là, avec notre système d'agriculture industrielle, on est dépendant de la basse entropie, mais on est dépendant de la basse entropie la plus rare. C'est-à-dire qu'on dépendant de la basse entropie, c'est-à-dire qu'on prend de la basse entropie, on la fait disparaître, on transforme en haute entropie, et c'est la plus rare. Bon, on ferait ça avec le soleil.
C'est pas grave.
On ferait ça avec le soleil. C'est pas grave. Bon. Donc, là. Alors, il nous dit un truc intéressant. Elle présente aussi le risque de piéger l'espèce humaine dans un cul-de-sac en raison de l'extinction possible de certaines espèces biologiques associées à l'agriculture organique. Le fait de remplacer le cheval de trait, le percheron, là, ou bien le buffle, les bœufs, les buffles, ça les fait disparaître. Hein. Le percheron, il n'y a plus maintenant comment aussi, par snobisme, tu peux avoir un percheron et puis le mettre dans ton champ pour faire bien. Bon. Mais l'extinction, alors là c'est une extinction d'espèces parce que l'homme n'en a plus besoin, alors voilà. Et les bœufs qu'on élève maintenant, les charolais pour la viande, le bifteck, etc., c'est pas des bœufs de trait, hein, ils savent pas tirer une charrue. Donc, on a une extinction d'espèces qui est due là à, comme d'autres extinctions d'espèces, parce que il y a une pollution de l'environnement qui fait, disons, une modification de l'écosystème par l'homme, qui fait que les espèces qui vivaient dans un certain écosystème, une fois qu'il a été modifié par l'homme, elles ne peuvent plus vivre. Là, c'est autre chose. Là, c'est l'homme qui n'a plus besoin de ces espèces. Qui n'a plus besoin de ces espèces, qui les fait donc disparaître. Donc, si on doit revenir progressivement, rapidement, bon, c'est le problème du déclin ou de l'effondrement, qu'est-ce que tu prends? Tu prends le déclin ou tu prends l'effondrement? Bon. Si on doit revenir au labour, à la fraction animale, bon, on aura un problème parce qu'on aura plus d'animaux.
Ouais.
C'est même pas le problème de comment est-ce qu'on va faire pour remplacer le tracteur. Le tracteur c'est bien pratique, faut que je me remette au bœuf. Il n'y a plus de bœuf du tout. Là, c'est un problème. Donc, il appelle ça piéger l'espèce humaine dans un cul-de-sac. En raison de l'extinction possible de certaines espèces nécessaires pour l'agriculture organique. L'agriculture organique, c'est celle qu'on va bien être obligé de faire. Après, pour d'autres raisons, encore, disons que l'aspect anthropique, l'aspect création de haute entropie de l'agriculture industrielle, elle agit surtout, enfin elle agit essentiellement à 90% au niveau du matériel agricole. C'est le matériel agricole qui, dans l'optique d'une dégradation anthropique de la matière et de l'énergie, ne va plus pouvoir être utilisé. Bon. Mais elle intervient aussi dans les savoir-faire, les choses qu'il va falloir exhumer et qu'on n'aura plus. Donc ça s'ajoute. Donc la basse entropie des métaux remplace la basse entropie du soleil. À cette différence fait que la basse entropie du soleil, on peut taper dessus tant qu'on veut, que les métaux, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. En réalité, l'utilisation économique du stock terrestre de basse entropie ne se limite pas à la seule mécanisation de l'agriculture. Elle constitue le problème principal pour le destin de l'espèce humaine. Alors là, il nous fait une petite démonstration. Pour illustrer ça, supposons que S représente le stock actuel de basse entropie terrestre et R une certaine quantité moyenne annuelle d'épuisement. Donc on a un stock S. Ça c'est le stock. Toujours aujourd'hui. Et puis R.
On prélève.
C'est la quantité que je vais tirer de basse entropie en 2019. Bon. Si vous savoir combien de temps ça va durer ce soir, c'est facile. On fait une division. Ouais. On divise S par R et on a le. Est-ce que. C'est quelque chose la question qu'on s'est posée souvent. Chaque fois qu'on dit, oui, mais si on faisait ça, si on limitait, ça pourrait. Oui, mais combien de temps ça dure ? Ben, combien de temps ça dure ? C'est simple. Hein ? C'est S divisé par R. Voilà. Bon. Tel sera le nombre d'années au bout desquelles la phase industrielle de l'évolution de l'humanité prendra forcément fin. Bon, étant donné la fantastique disproportion entre S et le flux d'énergie solaire qui atteint chaque année le globe, il ne fait aucun doute que même avec une utilisation très parcimonieuse de S, la phase industrielle de l'évolution humaine se terminera bien avant que le soleil ne cesse de briller. Bon, on a prévu 4 milliards et demi d'années. Hein. Bon, il brille depuis. Alors, la Terre a 4 milliards et demi d'années, est apparue la galaxie avec le soleil, et le soleil est prévu pour durer encore 4 milliards et demi d'années. De toute façon, on n'ira pas plus loin de nous que 4 milliards et demi. Mais bon, on n'en demande pas tant. On avait dit, chaque fois qu'on essaie de nous vendre un système qui va durer, on avait dit, vendez-le nous pour 10 000 ans.
Ce sera bien.
10 000 ans, ce n'est pas être très exigeant. Hein, parce que 10 000 ans, c'est ce qui nous sépare de la révolution néolithique. Bon, on demanderait Homo sapiens, ce serait 200 000 ans. Non. Alors, l'évolution néolithique, c'est moins 10 000 ans, c'est l'époque où les tribus nomades ont commencé à se sédentariser, faire un peu d'agriculture, commencé à tailler de la pierre. Bon, 10 000 ans, c'est hier. Hein.
10 000 ans, le Sahara était vert.
Oui. Oui.
Même
encore 5 000
ans.
Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a dit. Bon, quand on parle de durabilité, parce que. Comme tu n'étais pas. On peut se tailler. Bon, aux ateliers précédents, c'est une chose qu'on a pensée importante, qui n'est jamais dite et qui est importante, c'est que quand on parle de croissance, décroissance, développement durable, truc qui dure, tout ça, là, bon. Est-ce qu'on peut mettre une date ? Non. Alors, soit on nous dit c'est infini, le développement durable c'est infini. Soit on dit ça dure tant d'années. Et donc, nous on met une date, on dit 10 000 ans. Bon. C'est intéressant, il serait sans de trouver quelque chose, un système qui dure. Parce que 10 000 ans, ça a duré, 10 000 ans. Hein. C'est vérifié, hein. Ça a duré. Bon, donc c'est pas mettre la barre trop. Alors ça aussi c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Chaque fois qu'on débat avec quelqu'un qui vous vend un système qui dure, on peut lui demander est-ce que tu peux nous dire que ça va durer 10 000 ans. Et alors là.
Oulala.
Ah non mais là. Oui. Là ça jette un froid. Hein. Voilà, alors bon. Il est difficile de conjecturer ce qu'il adviendra alors, si toutefois l'extinction de l'espèce humaine n'intervient pas plutôt du fait d'un microbe totalement résistant ou de quelque insidieux produit chimique. Bon, ça, c'est autre chose. L'homme pourrait continuer à vivre en revenant au stade de la cueillette qu'il connut jadis. Là, on est avant le néolithique. Hein. On est chasseur-pêcheur-cueilleur, c'est-à-dire depuis moins 200 000 ans jusqu'à moins 10 000. Et là, alors parce que.
Il n'y a même pas de charrue. Là.
Non, c'est chasseur-pêcheur-cueilleur.
Tout à fait.
Hein? On ne prend que le renouvelable dans la limite de son renouvellement et on ne ponctionne absolument aucune basse entropie. On ne domestique absolument pas la nature. Et là, on est sûr que ça dure éternellement. Enfin, dans la limite du soleil. Parce que le soleil, dans 4 milliards d'années, il va devenir la grosse boule rouge, il va faire fondre Vénus, faire fondre Pluton, puis tout ça, ça va. Bon. Donc, bon. Mais on est sûr que ce qui s'est passé entre moins 200 000 ans et moins 10 000, on est sûr que ça marche. Qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Économiquement, c'est un système durable. Après, ce qui s'est passé de moins 10 000, alors, ce qui s'est passé de moins 10 000, je dirais, à l'année 1800. Alors, on va prendre 1800. Où on commence à fonctionner quand même. La basse entropie, mais très très peu. On a vu les graphiques, hein, jusqu'entre moins 10 000 ans et 1850, c'est ça.
Ouais, c'est bien.
Et après 1850, c'est ça. Bon. Donc, ça. Si on a eu. Bon, prenons le Moyen-Âge, pour essayer de. Bon, le Moyen-Âge, ça a duré 1000 ans, donc. Un fonctionnement comme au Moyen-Âge, là, on peut signer pour 10 000 ans. Hein. 10 000 ans, on est sûr que ça marche. On est sûr que ça tient 10 000 ans. Voilà. Bon, là, bon, on a l'air de dire des bêtises. Mais il n'y a rien de plus concret que ça. Ce qu'on dit, c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai et on sait que ça dure. Bon, mais c'est quelque chose qui est très, très difficile à dire. Bon, si tu disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte ?
À dire, on peut toujours le dire, mais à admettre par les autres.
Oui.
Là.
Non, mais si, par exemple, est-ce que vous m'invitez au journal de 20h pour dire un truc comme ça ?
Oui. Bon, ben, laisse tomber, il est complètement fada.
Et même pour vivre, comme on disait, entre moins 10 000 et jusqu'à 1800-1850, il ne donne pas de façon de durée de vie si on revenait même à ce stade-là, par rapport au stock. Le stock de matière.
C'est ce que je dis, on ponctionnait tellement peu que. Alors, on ponctionne peu, mais on ponctionne.
Oui.
Donc il y a une limite.
Voilà.
Mais c'est une limite.
Il y a de la marge, quoi.
Il y a de la marge. Il y a de la marge. Il y a de la marge, ça peut durer.
On pourrait revenir à 10 000, à 8 000 ans.
Et Moyen-Âge.
Oui, mais c'est de la régression.
Alors, ça, on ne va pas le traiter.
C'est la décroissance et la régression.
On ouvre des portes. Hein. Mais on traitera, on verra en septembre. Non.
Les stocks.
En 2020.
Minéraux, machin, pétrole, on les connaît pas vraiment. Parce que je me rappelle une anecdote. Hein. Tout le pétrole, je sais pas quel article, qu'en 2000, il y a 30 ans, hein, il n'y aurait plus de pétrole en 2000. Hein. Ça avait été annoncé par tous les chercheurs.
Il y a quoi? Oui, non, mais c'est vieux ça.
Après, c'est le plus important, ça.
On n'aurait plus du tout.
Oui, alors.
Et alors, les autres, est-ce que les autres minéraux, les machins, on est sûr de ce qu'il y a dans le sol? Est-ce qu'on en trouvera d'autres?
Alors, bon, là, on revient un petit peu dans rien.
C'est
des... Non, mais, alors, bon, c'est des sujets dont on a déjà traité. Et, bon, on va pas en reparler parce que c'est bon. Mais, bon, je dirais, après, on peut aussi, tous les deux, on peut développer. Mais ce que tu dis, c'est inexact.
Bon,
les trucs qui sont dits, mais on sait ce qu'il y a. On sait. Et on a aujourd'hui les tableaux à prélèvement identique. Hein, en 2020, il n'y a plus d'aluminium. En 2030, il n'y a plus de pétrole. Bon, à prélèvement identique. Hein. Là, le débat sur c'est pas vrai, du pétrole, il y en aura toujours. C'est pas vrai, du fer, il y en aura toujours. Bon, c'est un débat qui est... qui est clos maintenant. Hein. Ceux qui vantent la croissance ils prennent d'autres arguments, mais bon, on va pas en débattre, c'est très technique. Alors, si, ce que je peux conseiller, par contre, c'est d'aller voir et lire tout ce qu'écrit Jean-Marc Jancovici. Jancovici. Voilà, Jean-Marc Jancovici, ses bouquins et ses vidéos, il y a énormément de vidéos. Bon. Voilà. Ça, c'est pour vraiment bien rentrer dans l'information précise sur les sources d'énergie, les métaux.
Bon. Pour répondre rapidement, c'est vrai que on va trouver des méthodes nouvelles, par exemple l'explosion des sols avec injection d'eau pour récupérer les
l'île de schiste.
Mais on vous dit une chose, mais il arrive un moment, c'est clair que la quantité de pétrole sur Terre, elle est finie, elle n'est pas infinie.
Oui,
donc si elle est finie, on pourra, il y a un moment, on n'aura pas aller au centre de la Terre, si on peut y aller, ça peut être compliqué quand même. Oui, mais c'est une chose, quoi.
Donc, c'est vrai qu'il y a encore des idées comme ça qui circulent, que c'est pas vrai, il y a encore pas mal de pétrole, il y a encore c'est inexact. Exact.
Parce que c'est vrai qu'il faudra, enfin c'est ce qu'on a démontré, plus d'énergie que ce qu'on va produire comme énergie pour aller le chercher. Donc, même financièrement, on va arrêter ça, parce que même si on n'est pas allé au bout de l'épuisement des stocks, on va arrêter parce que ce ne sera plus rentable, au sens capitaliste du terme.
Oui, donc, c'est le TRE, taux de retour énergétique, ou INROI, Energy Return on Energy Invested, qui, je dirais, c'est même pas un problème financier, c'est un problème de bilan énergétique. C'est-à-dire que tu vas pas... rien n'est gratuit. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut sortir de l'esprit commun, tant qu'on n'a pas réfléchi, on a l'impression que c'est gratuit. C'est-à-dire, ah tiens, du pétrole, on va le prendre. Non. Même le pétrole facilement accessible, il faut des machines et de l'énergie. Si je veux sortir du pétrole, il faut que j'ai des machines, des outils, donc des métaux, et il faut que j'ai de l'énergie. Et après, donc, il faut faire le bilan. C'est-à-dire que si pour aller faire marcher la pompe qui tire mon pétrole, prenons un kilowattheure, parce que la mesure de la puissance est le kilowattheure. Si je dépense un kilowattheure pour sortir 0,5 kilowattheure de pétrole,
faut arrêter.
Voilà, ça ne fonctionne pas.
Les shadows pompaient, mais voilà.
Ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, on continue. Chaque fois que nous produisons une voiture, nous détruisons irrévocablement une quantité de basse entropie qui autrement pourrait être utilisée pour fabriquer une charrue ou une bêche. Alors j'ai surligné cette phrase parce qu'elle commence à répondre un petit peu à la question que tu posais en début de séance en disant bon, c'est bien joli, là on étudie exactement comment ça marche, mais bon, on voit que de toute façon ça peut pas marcher, donc comment est-ce qu'on fait?
Comment on s'en sort?
Voilà, comment on... Alors, bon, Roentgen, c'est pas l'objet de Roentgen. Il démontre un mécanisme, mais de temps en temps, il peut pas s'empêcher parce que tu peux pas faire, un constat en disant on est dans un système sans issue, sans jamais avoir une idée dont on pourrait faire un truc. Bon. Mais tout ce qu'il dit, attention, Roentgen ne donne jamais solution. Il dit comment on pourrait mettre un peu d'emplâtre, comment on pourrait ralentir un petit peu, arranger la plaie béante pour que la plaie soit un petit peu moins béante. Voilà. Bon. Et cette idée-là, elle est très, très intéressante. C'est une idée qui va être reprise par des mouvements décroissants. Mal reprise, parce que personne va vraiment jusque au fond de cette dualité. chaque fois que je construis, c'est tout ce que j'utilise en termes de basse entropie, que ce soit des métaux ou de l'énergie ou des hydrocarbures pour fabriquer une voiture, c'est au détriment d'une bêche. Pourquoi cette comparaison? Ben c'est parce que on imagine qu'il va falloir revenir à une agriculture traction animale et à une agriculture à l'ancienne, je dirais avant cette hérésie de l'agriculture industrielle, et qu'il faut des outils agricoles de type bêche, de type râteau, qui étaient les outils avant l'agriculture industrielle, et il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était avant 1950, c'est hier, c'est vraiment hier, bon. Et qui eux bon, peuvent nous aider à faire une agriculture qui dure très très longtemps. Mais quand on aura besoin, si on revient, et on sera obligé de revenir à une agriculture équilibrée,
organique,
bon, il va nous falloir des outils. Si on a utilisé tout le fer pour faire des voitures, hein, bon, ça manquera. Et aujourd'hui, il y a certains décroissants, ils sont pas nombreux, il y aurait même que c'est des bourgeois qui s'élèvent dans un moment commun, qui disent il faudrait obliger les industriels à fabriquer des bêches, des socs de charrue, des râteaux. C'est-à-dire que, Renault, tu fais une voiture, tu es obligé de fabriquer 3 bêches et en stock. Non mais, là on est sur du concret.
Hein,
bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, vous êtes fous, écoutez, c'est des dingues. Ce serait une façon de pas se retrouver
de la
bec dans l'eau avec merde, on n'a plus de fer. Les TGV sont cloués au sol parce qu'on n'a plus d'électricité. Il n'y a qu'à recycler les TGV, va recycler un TGV. C'est que des métros, des trucs composites, des alliages, tu ne peux plus récupérer. Parce que ça encore c'est un truc dont on n'a pas parlé. Hein. Quand on a fait le site du recyclage, on a dit je prends 10 bêches. Je les recycle et j'en fais 9. Et avec les 9, hop, j'y recycle 3 points après, j'en fais 8. Mais on n'a pas dit, si on n'a plus que des vieux TGV ou des vieux avions, bon, c'est même pas ensuite un problème d'énergie, mais c'est qu'on ne va pas pouvoir récupérer les métaux, parce qu'ils sont tous en alliage. Alors là, c'est un aspect très technique, hein, bon, mais c'est, tout le monde le sait, c'est évident. Donc, de fabriquer des outils en métal, un peu comme le vin, on appelle ça du monocépage, hein, c'est pas d'assemblage, c'est un monocépage. Bon. Eh bien, c'est quelque chose qui sera très difficile à faire si on ne conserve pas du métal pur, que tout est en métaux, en matériaux composites ou en alliage. Donc, en termes de pistes d'avenir, ce que nous dit Roegen, quand on fabrique une voiture, ben c'est du métal en moins qu'on retire pour fabriquer des bêches.
Je me marre, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en 2008, j'ai fait une croisière en Croatie et j'ai écouté une conversation entre deux personnes. Alors, il y avait un monsieur, c'était un gros patron, il avait des entreprises françaises, mais en Chine. Et il venait de prendre sa retraite. Alors l'autre lui dit, oh bah, t'as investi où ton pognon? Il dit, c'est simple, j'achète des fermes, parce que je ne veux pas crever de faim. Je comprends mieux.
Ouais.
Il n'était pas fou. Il parlait de la crise, il a annoncé 2008 alors qu'on n'y était pas encore, etc. Putain, j'écoute ça, je dis, merde. Mais au moins, il dit non, j'ai investi dans des fermes,
ouais,
parce que je ne veux pas crever de faim. C'est un mec qui avait du pognon à tort la rigueur, quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont conscients.
Quoi. Oui, mais il y a des. Alors, est-ce que vous connaissez une association qui s'appelle Terre de Liens?
Oui.
Vous connaissez quelque chose? Bon. Vous connaissez? Ouais. Donc, c'est une asso, enfin, bon, c'est un peu compliqué. Il y a une société anonyme aussi dedans, enfin, bref. Bon. Ce sont des gens, on va dire, qui achètent des terres. Avec l'argent citoyen, hein, c'est, bon. Et ces terres sont louées à des agricultures biologiques. L'idée, c'est de retirer le plus possible de terres de l'agriculture industrielle pour la faire
favoriser.
Et puis, dans le même ordre d'idée, il y a des gens qui pensent à faire des cellules de survie. C'est-à-dire, on achète 10 hectares, hein, et puis on fait des petits périmètres de 1 hectare avec une maison pour les gens qui voudraient, qui seraient obligés de quitter la ville, et puis d'avoir son lopin avec une maison, et puis un jardin pour pouvoir...
Il y a quand même des gens qui vont bien, la densification des villes, mais c'est dramatique, quoi. J'étais encore dans des réunions, ils ne pensent qu'à ça, densifier. Ouais. Il faut construire des immeubles. C'est comme ça qu'il y a récupéré
le problème. Oui, mais le problème de la densification, il y a également le problème de l'étalement, parce que c'est pas génial non plus l'étalement. L'étalement en périphérie où on fait des petites maisons, ça prend énormément.
Ça augmente le bétonnage des.
Et ça prend énormément, voilà, sur. Sur
l'artificialisation des terres.
En fait, il faudrait presque mieux faire
plus de hauteur
en hauteur qu'en étalement. En
fait. Alors, ça c'est bon, ça c'est un débat très intéressant. Oui, mais il y a des lois inverses aussi. Hein. Il y a des villes où on n'a pas le droit de construire au-delà d'une certaine hauteur.
Oui, il y avait ça à un moment. Je crois qu'en ce moment, c'est l'inverse.
Alors, je ne sais pas où on en est, par exemple, comme dans des villes comme Lyon. Est-ce qu'il y a des... Alors, c'est quoi, c'est des plus plans, le cours d'urbanisme, les Scott, tout ça. Bon, en termes de construction urbaine, est-ce qu'on est sur une logique plutôt d'immeuble, ou plutôt, pas d'immeuble haut, de tours?
Ah, on est en train de remonter les étages, quoi, c'est clair.
Il y a la deuxième loi, c'était de prendre le maximum de terrain qui existe entre des immeubles. Remonter d'autres
bâtiments. Oui, mais après, il y a les normes OMS d'espace vert.
Ah, oui,
et ça, je suis en train de me battre là-dessus.
Il faut
quand même 10 mètres carrés par habitant. Quoi.
Ouais.
Plus 25 mètres carrés par habitant pour fin de semaine. Ça, j'arrive pas à comprendre comment ça marche, mais voilà, je suis en train d'essayer de me le faire expliquer. Mais voilà, je veux dire.
Alors.
Parce que si on bétonne partout.
Alors.
Plus rien.
Compte tenu des villes telles qu'elles sont actuellement,
ouais.
Et si on est sur un pronostic de décroissance inéluctable, hein, parce que on a moins de ceci, moins de cela, hein, bon. Des difficultés donc à rester en ville, puisque qui dit décroissance dit diminution des emplois industriels, etc. Et donc diminution de tout ce qui n'est pas directement productif près de la terre, hein, puisqu'on a eu un phénomène de désertification des campagnes, donc des migrations urbaines.
80% des Français.
Voilà, qui sont
des bons.
Et on peut avoir un phénomène inverse, un phénomène de remigration vers les campagnes, qui vont poser un problème parce que justement on a artificialisé énormément de terres avec le bétonnage. Je crois qu'il y a un terrain de foot qui diminue toutes les heures. En France, il y a des statistiques comme ça. On perd un département tous les ans, tous les deux ans.
Ce qui est surprenant, c'est qu'au niveau de la terre, c'est vrai, pas au niveau des forêts.
Pardon ?
Les forêts ne diminuent pas en France.
Ah oui ?
Parce qu'elles sont peut-être plus protégées.
Non, elles ne diminuent pas en surface.
Oui, peut-être qu'on les protège.
Ben, c'est bien ça.
Au niveau terre, c'est l'inverse.
Les terres agricoles vont diminuer.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que les agriculteurs aujourd'hui, tout ce qui est dans les secteurs qui montent vers les forêts, laisse tomber, où c'était un peu friche comme ça, ils ne font plus.
Ouais.
Par contre, ils ont les blés, mais ça se voit toujours.
Ouais. Après, ils ont des ennuis. Puis ça supprime les oiseaux.
C'est vrai que la surface cultivable diminue et les forêts. augmente. Non, presque.
Elle ne diminue pas de fois la
déjà. C'est déjà pas mal.
Non, elle augmente un peu plus mal.
Ouais. On va en faire une
bonne. Bon.
Est-ce qu'il y en a qui...
Bon, on s'éloigne un peu de notre sujet, non ?
Non, non, mais
c'est un peu...
Non, c'est une petite respiration. C'est...
Voilà,
mais bon, ça va, dans la continuité. Dans la
hein. Si on peut dire une chose que j'ai vu il y a encore pas longtemps, il y a beaucoup de gens, de chercheurs, pas des chercheurs, qui disent qu'aujourd'hui, il faut donc, diminuer le nombre d'habitants. Donc, ils veulent réguler pour que... Il y en a que j'ai vu, je ne sais plus, un livre, un habitant par...
Un enfant par foyer. Ouais.
Ouais, C'est pas longtemps. Donc ça va diminuer tout. Ça fait
de toute façon, ça va diminuer.
Ça fait de
à partir du moment où les gens n'auront plus à bouffer, ça va diminuer.
Si à moins d'habitants, ça fait une décroissance.
Oui, mais...
C'est bon.
Si on dit un enfant déjà tout de suite, par exemple, ça va baisser parce qu'il y aura plus le taux de renouvellement.
Ah bah oui,
c'est pour 2,2.
Si c'est 1, à la limite, en 50 ans, on peut arriver à... Il faut le temps que les autres meurent, disons en un siècle, on baisse de moitié, quoi.
Oui, mais la Chine l'avait fait, ça.
Oui.
Et maintenant, ils font machinerie, ils font la soupe pour produire, entre guillemets...
Est-ce qu'ils sont dans le même système?
Donc, ce qu'ils ont freiné d'un côté, ils font le contraire maintenant, ils pédalent vite pour récupérer ce qu'on n'a pas eu en nombre d'argent.
Est-ce qu'ils sont dans le même système?
On n'a rien gagné.
Même si c'est...
La démographie, c'est un problème dont on ne sait pas par quel bout il faut le prendre. Hein? Aujourd'hui, des politiques nationales qui préconisent une diminution démographique, enfin, à ma connaissance, j'en vois pas. Il y a eu la politique de l'enfant unique en Chine,
ouais.
Qui a été un échec.
Ouais.
Et puis aujourd'hui, qui n'intéresse
pourquoi
plus.
Pourquoi elle a été un échec, tu sais,
tu as fait bien.
Hein? Il y a eu le problème des filles et des garçons. En plus, ils abandonnaient leurs enfants. Il y avait des infanticides. Ils abandonnaient leurs enfants. Donc, ils avaient deux enfants, pardon. Et en fait, ils ne les déclaraient pas, par exemple.
Oui, il n'y avait qu'un enfant.
Donc, il n'y avait qu'un enfant qui était déclaré. Donc, il n'y a qu'un qui allait à l'école. Enfin, au niveau des soins, au niveau de l'école, au niveau. Voilà, il y a eu beaucoup de.
Ouais.
Et puis, des infanticides, beaucoup. Quoi. Mmh. Et puis, il y a le problème de la vieillesse.
Oui, voilà, dans la vieillesse.
Un enfant, si tu perds, ben, ta personne s'occupe de toi.
Après,
en Chine, en plus, t'es quand même encore.
7 heures par jour.
Voilà.
Pardon ?
On augmente la durée de vie de 7 heures par jour encore.
Oui.
Oui, la politique de l'enfant unique a été un échec, comme dit Véronique, par les constats. Oui, c'est passé ça, oui. Ça. C'est tout simplement l'échec d'une légifération sur la fonction de la procréation de l'homme, qui est une fonction naturelle, et il semblerait que la législation et la procréation naturelle, ça ne fasse pas un ménage, un ménage qui apporte beaucoup de... une association qui n'est pas évidente.
Tous les pays plus riches ont moins d'enfants.
Oui, ben là, il y a une régulation qui s'opère spontanément. Hein, parce qu'une société, elle voit bien, grosso modo, quel est son intérêt de société, hein, pris au sens large, mais les comportements individuels, ils sont aussi fonction d'une vision générale de la société. Et voilà. Non, la démographie... Je pense qu'elle ne va pas être la source, elle n'a jamais été la source de quelque chose, c'est toujours la conséquence de quelque chose. C'est-à-dire qu'on a une démographie qui augmente parce qu'elle est la conséquence de quelque chose. Alors on a vu tout à l'heure industrialisation de l'agriculture, augmentation de la démographie. Et puis la démographie elle diminue quand il y a un événement extérieur. Bon, les trois événements qu'on connaît pour faire diminuer la démographie, c'est les guerres, les famines,
hein,
et puis les virus, les maladies. Guerre, famine, maladie, ça fait diminuer la...
catastrophe naturelle,
en ce moment. Oui. Donc, la démographie me paraît être toujours une conséquence et jamais une cause. Après, c'est une conséquence d'un État, et ensuite, ça devient la cause aussi de... Bon. Mais quand on a voulu que la démographie soit la cause de quelque chose, on a mis en place des mesures législatives. Et finalement, la Chine, c'est l'exemple bien connu, s'est rendu compte que c'est marrant.
Et en France, on a bien fait le dans le sens contraire. pour inciter les gens à avoir.
Ah, ça, on peut le faire. Non, mais voilà, dans le sens contraire, ça marche. Voilà. Oui, mais alors, non, attendez, il faut faire une différence hein, entre une législation punitive hein, et une législation incitative. Une législation incitative, c'est pas une législation.
Là, on est un peu
dans le deuxième atelier. Une loi, c'est par définition quelque chose qui est coercitif. Une loi. Une prime, c'est pas coercitif. Hein? Bon. Donc, c'est tout à fait différent. On peut, oui, là, ça marche. Hein? S'il y a des incitations, si on se demande intérêt à faire ça, on va peut-être le faire. Maintenant, coercitif sur la coercition, la coercition qui impacte la démographie, c'est une coercition qui vient de l'extérieur, qui ne peut pas venir de l'État, qui ne peut pas venir de l'organisation sociale. En tout cas, ça ne marche pas.
On pourrait envisager, ça ne veut pas dire que je suis pour, hein, mais on pourrait très bien envisager une incitation à l'enfant unique en disant, par exemple, on est financièrement une famille avec un enfant et on n'est plus une famille qui a trois enfants.
Mais bien sûr.
C'est le contraire de, en gros...
Oui.
Voire on augmente les impôts.
On peut même aller plus loin parce qu'il y a des propositions qui vont même au-delà de ce que tu dis. On peut imaginer une prime aux femmes monoposées sans enfants. C'est-à-dire que tu sais que si le jour où tu te fais t'as le certificat de ménopause, t'as pas eu d'enfant et tu vas toucher une grosse prime. Bon, et donc, voilà. Ça, oui, ça peut marcher. Mais c'est pas coercitif.
Oui.
On dit maximum 2, on retourne 15, enfin 2, ça fera. Ça fait pas le renouvellement.
Si on veut diminuer, il faut.
Non, mais si on dit 2, ça veut dire qu'on aura 15, 0.
Oui.
On n'a rien à 1,1 ou quelque chose. Parce que les Allemands, ils sont à 4, en 3.
Ils sont à moins, oui, les Allemands.
Plus que ça.
Pour revenir à Roentgen, la décroissance et l'entropie, je continue les phrases significatives. La course au développement économique, qui est le trait distinctif de la civilisation moderne, ne laisse aucun doute quant au manque de clairvoyance de l'homme. Bon, on vient d'en expliquer, hein, notamment que chaque fois qu'on fabrique une automobile, on détruit de la masse entropique qui devra servir pour des outils réellement utiles. Ayant multiplié ses moyens d'action biologiques par ses prothèses industrielles, alors les prothèses industrielles, Roentgen appelle ça aussi les objets exosomatiques. Par exemple, la voiture, c'est un objet exosomatique. Endosomatique, c'est que tu as en toi, alors le bras. Pour faire la compression de la voiture, la jambe. Mm-hmm. La jambe, c'est un organe qui te permet d'avancer. Mm-hmm. La voiture, c'est un organe aussi, mais c'est un organe exosomatique. Mm-hmm. Voilà. Donc, Roentgen emploie soit le terme de prothèse industrielle, soit le terme d'outil exosomatique. Prolongement d'un organe naturel, de l'homme. L'homme ipso facto s'est rendu tributaire d'une source de subsistance très parcimonieuse, on l'a vu, hein, la masse entropie, allant jusqu'à s'intoxiquer du luxe de la civilisation industrielle. Tout se passe comme si l'espèce humaine avait choisi de mener une vie brève mais excitante, laissant aux espèces moins ambitieuses une existence longue mais monotone. Et pourtant, ce sont les forces agissant le plus lentement qui sont généralement les plus décisives. Il fait une comparaison, la plupart des hommes meurent non pas d'une force agissant rapidement, telle une pneumonie ou une action de la route, mais de l'action lente des forces qui provoquent le vieillissement. Donc, l'économie c'est pareil, c'est les forces lentes qui sont les plus fortes, c'est celles qu'on ne veut pas voir.
Oui.
On voit les effets rapides, mais les effets rapides qui sont les effets qui donnent la jouissance, alors on va venir à la notion de jouissance, à la notion de joie de vivre, parce qu'il dit que la civilisation industrielle, c'est pas la recherche d'un équilibre justement au long terme, mais de la recherche d'une jouissance éphémère, je trouve que cette idée de force qui agisse lentement, qui n'y intéresse pas, il ne nous intéresse pas les forces qui agissent lentement. Ce qui nous intéresse, c'est les forces qui agissent rapidement. Ouais. Et pourtant, c'est les forces qui agissent lentement
qui sont les plus
qui sont déterminantes.
Déterminantes.
Alors, là, et pour terminer ce chapitre, hein, il ouvre sur l'énergie solaire en disant qu'il faudrait que l'homme découvre des moyens de transformer directement le rayonnement solaire en puissance mécanique. Alors, attention, on dit transformer directement le rayonnement solaire en puissance mécanique, pourquoi ? Assurément, une telle découverte représenterait la plus grande percée imaginable dans la problématique anthropique de l'humanité. Car elle donnerait à celle-ci la maîtrise de la source la plus abondante pour la vie. Voilà. Alors, on a déjà parlé évidemment de l'arme absolue qui était le soleil, mais Rogaine nous dit attention. Moi, je parle de transformer directement le rayonnement solaire en puissance mécanique. Hein. Parce que le rayonnement solaire qui va fabriquer de l'électricité, bon, il faut ensuite...
Vous êtes optimiste.
Il faut ensuite des fils, des pylônes pour transporter l'électricité. Bon. Donc, la véritable utilisation prometteuse, qui serait vraiment une révolution, puisqu'aujourd'hui... on sait qu'une centrale solaire thermique ou une centrale solaire photovoltaïque peut fabriquer de l'électricité. La véritable révolution, c'est... alors, il fabrique de l'électricité toujours avec la machine à vapeur, fait chauffer de l'eau, hein, qui fait tourner une turbine. Ce qu'il appelle son Prométhée 3, hein, le Prométhée 1 étant la maîtrise du feu, le Prométhée 2 étant la machine à vapeur, le Prométhée 3, ce serait transformer directement l'énergie solaire en puissance mécanique.
En fait, on est les roues avec l'énergie solaire sans passer par l'électricité.
Voilà.
C'est ça l'idée.
Voilà.
Voilà la bonne idée.
Et si possible, sans capteur. Ah oui, parce qu'un capteur, il peut. Parce que quand on parle d'énergie, là aussi, bon, il parle du dogme énergétique. Le dogme énergétique, c'est que les gens parlent d'énergie, ils me disent, oui, on aura l'énergie comme ça. Ils ne parlent pas du capteur. Le capteur, il faut. Des métaux. Bon, c'est-à-dire l'énergie solaire qui arrive et qui fait tourner quelque chose. Qui fait tourner. Sans capteur. Oui, c'est ça la maîtrise.
Et par l'eau, c'est pas tout, mais on a peut-être passé.
Ah ben, l'eau le fait. Hein? L'eau le fait. C'est-à-dire qu'on prend, on prend du bois, on fait des pales en bois. On prend un axe en bois et ça tourne. Et ça tourne. Ensuite, on met en retour, bon, un crénelage en bois, au pire. En retour, une courroie en cuir de buffle et ça tourne.
Même le vent.
Alors, on peut faire tourner
le vent.
Je vais pas m'écouter. Avec le soleil, il y a des expériences qui existent. Tu prends un axe, tu mets des pales, tu peins un côté noir, un côté blanc, hein, et le soleil va, en tapant sur le côté noir, la matière va absorber l'énergie du soleil. Par contre, elle va être réfléchie sur le côté blanc, et ça va donner un couple. Et ça marche.
Oui.
Mais c'est extrêmement faible comme...
Oui, c'est quoi? C'est en cinquième on fait ça, je crois. Hein. En TP de cinquième.
Je sais pas, mais c'est ça marche.
Oui, oui, je veux dire, oui. Si tu veux, tout le monde avait ça.
Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire la même chose pour faire tourner les roues d'une bagnole.
Alors, ça vient. Alors, bon, ça vient, ça, de ce que l'énergie solaire est extrêmement puissante. On a vu qu'elle représente 4 jours d'énergie solaire, ça représente tout le stock terrestre de minerais. En transformation énergétique. Elle arrive sur la Terre de façon extrêmement diffuse. Donc, tu mets tes trucs blanc-noir, c'est très faible, très disséminé.
Bien sûr.
Il faut la concentrer. Alors, on avait dit, on peut la concentrer avec des installations optiques. Hein. Bon, mais, alors, les Égyptiens faisaient ça, faisaient la cuisine, et l'ingénieur, bon, mais il réfléchissait, enfin, il concentrait les rayons solaires, mais bon, tu as le four de veille d'eau, mais on est limité, on concentre, ça va faire tenir un petit peu plus, bon, mais.
Il y a une école près de chez moi, ils ont fait ça pour l'éclairage.
Hein?
Il y avait ça, il y avait l'éclairage par des trucs, et aussi genre, de la chaleur qui capte comme ça, je ne sais pas comment. Il y avait quoi. Mais l'éclairage, c'est incroyable, hein. Ça fait un coup, ça renvoie.
Mais du coup, ça réfléchit.
Alors, toutes ces applications qu'on imagine. Alors, avec toutes ces applications d'énergie solaire qu'on imagine. Alors, l'énergie solaire, ça fait rêver, parce que on sait que c'est une source énorme et inépuisable.
Bon,
donc ça c'est pas discutable. Ça, c'est déjà quelque chose d'acquis. Bon. Après, on sait que ça produit un certain effet. Hein. Si on met une loupe, on fait chauffer de l'eau, on fait tourner un truc. Bon, on sait que ça fait un certain nombre de choses. Et puis, de là, on peut dire, oh ben, donc, on va bien trouver. Et le step, il est là. Entre celui qui va dire, je n'ai pas la peine que je réfléchisse à ça, parce que on va bien trouver un moyen.
Oui, c'est ce qu'on pense toujours.
Voilà. Alors, ça vaut la peine quand même de bien étudier, de bien regarder. En tout cas, aujourd'hui, et là aussi, il faut vous demander quand. Quelle époque on va trouver? Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien.
Puis il n'y a pas tellement.
Alors, il y a aussi un biais informatif, on parle de biais cognitif, un biais informatif, qui est de partir d'une petite expérience dans le laboratoire pour dire, vous voyez, ça peut marcher. Bon. Exemple, le truc qu'on fait en TP de 5e avec le soleil qui fait, de dire, vous voyez, puisque. Ça, je fais ça en TP de 5e, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire fonctionner des semi-remorques de 60 tonnes pour aller de Vladivostok à Malaga
avec le soleil.
Avec le soleil. Je pars dans mon petit truc qui tourne, bon, je mets des ingénieurs dessus, et bon, et on vit sur des choses comme ça. Alors, nous, on peut pas, oh bon, nous, on peut pas dire non, on peut pas dire que c'est impossible. Hein? Tout ce qu'on peut dire qui est factuel, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas le faire.
Ça, c'est clair.
On ne sait pas le faire.
Non, bon. Il y a une chose aussi, il y a des blocages, énormément de blocages, il y a toujours des blocages au niveau de la recherche par rapport à ceux qui veulent le pétrole, sont du pétrole. S'ils se disent on supprime le pétrole, on est dehors. Donc il y a toujours des blocages par des grands groupes qui ne veulent pas faire avancer. Ou le pétrole, je ne sais pas. Il y a toujours des blocages. Le moteur à eau, on a parlé du moteur à eau il y avait pas combien d'années, 40 ans. Qui est sorti, mais il n'est jamais sorti.
Mais il y a le moteur à air comprimé qui marche.
Oui, si, parce que les taxes, il n'y aurait plus de taxes, il faut trouver autre chose. C'est le politique, là.
Mais le moteur ne change rien au problème. C'est ça l'ennui. Même un moteur à air comprimé qui ne consomme pas de pétrole.
J'ai oublié ton prénom, c'est
Daniel.
Daniel, oui. Je vais me permettre de te contredire. Je vais pas besoin de dire, j'ai raison. Hein. Bon, mais bon. C'est des raisonnements que je connais bien. Qui sont, à mon avis, qui sont faux. Je vais essayer de dire pourquoi. Bon. Un raisonnement qu'on entend très souvent, qui est de dire, il y a telle et telle source d'énergie, aujourd'hui, qui n'est pas développée, parce que les lobbies du pétrole ont empêché la recherche.
Bon, mais c'est vrai.
Non, c'est faux.
Que les lobbies du pétrole ont empêché la recherche?
Oui. Non, mais bon, non.
Ah bon.
Oui, c'est
ah,
faux.
Bon,
non, mais c'est. Alors. Bon, c'est un sujet très connu. Oui. C'est un débat très connu. C'est pas dire je dis pas ça parce que j'ai la solution. Non, mais c'est pas quelque chose qu'on peut dire sans aller deux secondes. Bon. Si on veut parler de ça, on en parle. Bon. Il faut également voir des gens qui travaillent dans le pétrole pour savoir ce qu'ils en pensent. Nous, on a eu notre deuxième conférence, Georges Turlin, qui est ingénieur en plateforme pétrolière, qui est venu nous faire une conférence qui s'appelait le déclin du monde industriel. Je ne sais pas s'il avait appelé comme ça sa conférence. Enfin, bon. Il est absolument convaincu de... Bon. Et donc il connaît bien le milieu puisqu'il a été ingénieur chez Total toute sa vie. Je connais aussi Jean Laherrer, qui est le président français de l'ASPO, Association for the Peak Oil, Association for the Study of the Peak Oil, qui est une association internationale et qui a donc une antenne en France. Patron, c'est Jean Laherrer, qui est également ingénieur pétrolier. C'est lui qui a découvert notamment les gisements de pétrole d'Assim et Saoud. Enfin, il les a découvert avec son équipe. Bref. L'histoire que les lobbies du pétrole ont freiné la recherche dans d'autres domaines, c'est une fable pure. Alors, non, bon, mais quelque chose, ça plaît beaucoup. Cette idée, elle est très, très, très intéressante. D'abord, ça tient. Bon, d'abord, c'est faux déjà factuellement. Mais ça, vous êtes obligé de me croire sur parole, ou alors il faut aller voir. Bon, mais raisonnons un peu en toute logique. Alors, non, deuxième élément factuel. Bon, je dis, le premier élément factuel, c'est que c'est pas vrai. Et le deuxième élément factuel aussi, c'est que les industries du pétrole investissent toutes dans les énergies alternatives.
Maintenant.
Mais avant. C'est-à-dire quand avant?
Il y a 20 ou 30 ans, je pense.
Il y a 20 ans, ils ne le faisaient pas.
Moins de 10 ans.
Oui. Bon, enfin, aujourd'hui, ils le font. Ouais, le pétrolier.
Ils sentent le bout du machin.
Non, mais. Mais ils sentent le bout de. Alors oui, non, mais évidemment, ils sentent le bout. Non, mais c'est. Bon. Les gens de chez Total. Alors, essayons de raisonner simplement de façon logique, hein, sans dire qu'on est des spécialistes du pétrole ou des plateformes pétrolières. Bon. Les gens du pétrole savent que bientôt il n'y aura plus de pétrole. Pour faire simple, ils le savent tous. Et donc,
je peux couper une ou deux jeunes choses.
Oui.
C'est aussi le comportement des gens qui changent aussi, sur le pétrole. Et pas que le pétrole, mais le comportement des gens qui veulent de moins en moins une voiture à l'essence, le pétrole.
Oui.
Non, mais oui.
Ils sont obligés de coller à la demande.
D'accord, mais les pétroliers, les gens qui extraient le pétrole, savent très bien. Et ça, ils le savent depuis le début. Ils savent bien qu'ils ne pourront pas extraire plus de pétrole que ce qu'il y a dans la Terre. Et que leur job, hein, il va s'arrêter le jour où il n'y aura plus de pétrole. Ça, ils le savent. Bon, non mais. Ça, ils savent qu'ils travaillent. Oui. Bon. Ils savent qu'ils travaillent sur une ressource limitée. Ils le savent depuis le début.
Ah, depuis le début, je suis pas sûr. Enfin, je pense que maintenant, ils en font plus.
Depuis le début, non. C'est-à-dire que le jour où James Dean, dans le géant, plante son tuyau, puis qu'il sort, il se dit, ben, il y a du pétrole pour la... Bon. Mais à partir du moment où il y a des géologues, comme Jean Laherrer, hein, qui sont allés... parce qu'il y a eu une période où l'activité principale des groupes pétroliers, c'était de faire de la recherche de gisements. Hein. Et il y a une époque où on découvrait plus de gisements qu'on extrayait de pétrole. Et la déplétion pétrolière, en fait, c'est le moment où on... Par exemple, en 2019, on va produire plus de pétrole qu'on en trouve. En termes pétroliers, c'est ça la déplétion. Oui, mais ça fait déjà un moment, ça fait que c'est... Bon. Alors, revenons à notre truc. Donc, il faut prendre le temps d'en parler, même si c'est un détour un petit peu long, parce que c'est un raisonnement...
Oui,
ben, c'est un raisonnement qu'il faut démonter, enfin, bon, ou alors tu continues à rester sur ton truc. Hein. Bon,
moi, je...
Alors, le... essayons d'être logiques. Les pétroliers, ils savent depuis le début, enfin, dès qu'ils ont commencé à travailler scientifiquement avec des ingénieurs qui allaient chercher les gisements et qui allaient mesurer, qui allaient estimer de façon relativement scientifique ce qu'il y avait dans le sous-sol, afin de pouvoir avoir des chiffres de réserve. Bon, ils voyaient qu'ils bossaient sur un job qui était limité dans le temps. Bon. Quel intérêt peuvent avoir ces gens-là à freiner la recherche dans d'autres domaines? Aucun intérêt. Le pétrolier, il sait très bien deux choses. C'est la première que je viens de dire, je ne vais pas la répéter. Il sait aussi une autre chose, que le pétrole, c'est la molécule la plus puissante qui ait jamais existé et probablement qui n'existera jamais. En termes de concentration, en termes de nombre de kilowatts, c'est 10 000 fois plus puissant, enfin 1 milliard de fois plus puissant que le soleil, en 2 kilowatts. La puissance, oui, avec un gramme de pétrole, ce que tu fais avec un gramme de pétrole, ou avec un litre de pétrole, la puissance de la molécule de pétrole, le pétrole est facile à transporter, il est facile à stocker, il a une puissance calorifique extraordinaire. Bon, c'est probablement la chose la plus fabuleuse que l'homme ait jamais trouvée et jamais exploitée.
C'est le plus facile à
exploiter. C'est là, je ne vous donnerai pas des éléments techniques parce que je ne suis pas chimiste, mais quelqu'un notamment comme Yves Cochet vous expliquera, ou comme Jean Covici.
Je vais te contredire, un gramme d'uranium peut fournir beaucoup plus d'énergie qu'un gramme de pétrole. Simplement, c'est plus compliqué. Non. Ça met en œuvre un processus vachement plus complexe.
C'est ce que je dis.
Voilà.
C'est ce que je dis. Et avec un litre de pétrole, c'est la panoplie de tous les avantages les plus extraordinaires. C'est-à-dire facile à extraire, facile à transporter, facile à stocker. Oui, voilà. Puissance calorique, mise en œuvre extrêmement facile. Un cracking qui permet de prendre des produits légers, des produits lourds, de faire du bitume, de faire du white spirit, enfin bon. Le pétrole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gars, ils savent très bien que rien ne peut concurrencer leurs produits. Il n'y a rien qui concurrence le pétrole. Rien. Rien. En termes de rentabilité, il n'y a rien. Bon, donc l'idée saugrenue, mais qui plaît au public, que les lobbies, les gars du pétrole, ils ont peur des autres énergies et qu'ils ont tué dans l'œuf le moteur à eau, le mouvement perpétuel, ou je ne sais pas quoi, en termes de logique pure, ça ne tient pas la route, ce raisonnement.
Est-ce que c'est plus les États, peut-être? Parce que s'il n'y a pas de taxes, si on met de l'eau.
Là, pourquoi ça peut marcher alors?
Alors, voilà. Je continue. Prenons l'automobile, puisque l'application la plus spectaculaire du pétrole, c'est l'automobile. Prenons l'automobile. L'automobile qui a démarré au milieu du 19e siècle. Bien. Au départ, l'automobile, les premières automobiles qui ont été fabriquées, étaient majoritairement des automobiles électriques qui fonctionnaient avec la pile à combustible. Là aussi, on dit pile à combustible pour l'extérieur, c'est une invention qui date de 1830 ou 1840.
La première, c'est à vapeur.
Oui, à vapeur. Bon. Et d'ailleurs le premier record de vitesse de voiture, avec la jamais contente, c'était une voiture électrique. Au début du XXe siècle, dans les usines Ford, on fabriquait 2/3 de voitures électriques pour 1/3 de voitures thermiques. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le pétrole, c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable. Au début, on avait que la technologie électrique, donc ça semblait plus simple de faire fonctionner. Chercher le pognon. Pourquoi c'est pas la tête de chercher le pognon? Bon, pourquoi aujourd'hui 100% du trafic des transports mondiaux, c'est des transports c'est un carburant. Pourquoi c'est le carburant? C'est pas parce qu'il y a les lobbies du pétrole qui ont torpillé la recherche du moteur à eau ou je ne sais pas quoi. C'est que tout simplement, et la preuve en est qu'au début, on avait essentiellement des moteurs électriques, petit à petit, on s'est rendu compte, les ingénieurs se sont rendus compte que le pétrole, c'était beaucoup plus efficace, beaucoup plus pratique. Et puis c'est tout. Ils n'ont rien à foutre de torpiller la recherche. Pourquoi est-ce que... Alors, prenons la voiture électrique. Pourquoi est-ce qu'on a eu la voiture à pétrole et pas la voiture électrique? Bon, Ford il a arrêté de faire des voitures électriques, pas parce qu'il y a les lobbies du pétrole qui sont venus avec Al Capone lui mettre le truc sur pistolet sur la tête en lui disant on t'interdit de faire des voitures électriques parce que nous on veut vendre de pétrole. Les pétroliers n'ont jamais eu aucun problème pour vendre de pétrole. Et ils sont persuadés qu'ils n'en auront jamais. Ils vendront le pétrole jusqu'à la dernière goutte qu'ils extrairont sans aucun problème. C'est ce qu'il y a de mieux au vendre de pétrole. C'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus énergétique. Il n'y a pas photo. Il y a photo avec rien. Il n'y a aucun problème. C'est, quand on leur dit ça, mais ils rigolent. Alors, bon, ils savent effectivement que bientôt il n'y en a plus, donc ils se reconvertissent, ils investissent dans les énergies, mais toutes les énergies à côté, toutes les énergies alternatives à côté du pétrole, mais c'est des nains. C'est des nains.
Oui, mais pourquoi
en termes de rentabilité, bien entendu. Hein, comment ?
Pourquoi on n'y retourne pas un petit peu, vu que bon, on sait que le pétrole va avoir une fin ? Pourquoi on ne retombe pas justement sur des moteurs ou à eau ou à
combustible ou à...
Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, le pétrole est encore plus... Il est rentable. Même... et Jean Comissi nous explique bien. Même à 80 $ le baril, c'est rien. C'est rien. Comparé... Alors, on compare ce que coûtait un esclave... Hein, du temps de l'Antiquité, à ce que coûte un litre de pétrole. Le boulot que fait un litre de pétrole, un litre de pétrole, tu fais le boulot de 200 esclaves. Enfin bon, Et d'ailleurs, le terme d'esclave énergétique, le pétrole, c'est un esclave énergétique. Il vaudrait 10 fois plus cher ou 100 fois plus cher, il serait encore bien meilleur marché par rapport au boulot s'il fallait le faire par des hommes.
Bah oui, c'est...
Non, bon, ce qu'il faut bien, quand on parle de pétrole, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a rien de comparable. Tout ce qui est à côté du pétrole, en termes d'énergie, c'est des nains.
Bon, moi je vais te dire quand même, j'ai des expériences, hein, j'ai mon voisin dans le sud qui avait investi dans une voiture à air comprimé, fabriquée à Nice, parce que c'était une entreprise française qui fabriquait la voiture. Mm-hmm. La voiture était prête. Et là, eh bien, pendant 3 ans, ils ont essayé d'obtenir l'autorisation de circuler. Ils n'ont jamais eu l'autorisation de circuler. Donc, le gars qui avait investi, le copain qui avait investi 4000 euros, la société lui a dit, écoutez, on est désolé, mais on n'a pas la... On voit bien qu'on ne va pas obtenir l'autorisation, on vous rend vos 4000 euros. Et on va aller construire nos voitures en Inde, puisque la France ne veut pas qu'on les fasse.
Bon. Oui. La France, ça ne veut pas dire que c'est le lobby du pétrole. Tu fais. La raison pour laquelle on n'a pas donné d'autorisation d'exploitation, de circulation à la voiture à air comprimé, que je connais bien.
Donc c'est pas.
Non, mais ça c'est connerie, toute une série de raisons, si tu veux. C'est pas les pétroliers.
C'est pas les pétroliers.
C'est pas le lobby des pétroliers, mais le lobby des pétroliers, ça n'existe pas. C'est une vue d'esprit. Bon, c'est vrai que ça fait bien dans le sens de dire on n'a pas développé le moteur à eau parce que. Bon, on peut en reparler. C'est un débat qui est très marrant. Hein, mais.
Enfin, ils n'ont pas eu d'autorisation.
Non, mais d'accord, mais ils n'ont pas eu l'autorisation.
Alors, c'est vrai qu'on se dit c'est les pétroliers, c'est peut-être pas les pétroliers.
Mais non, c'est pas.
Déjà, l'électricité, au niveau de l'État, ça leur pose des gros problèmes. Parce qu'il faut transformer.
Oui, bien sûr.
Les taxes d'État, le pétrole, il n'y en a plus. Il faut trouver autre chose. L'électricité, c'est pas pareil, on ne peut pas taxer l'électricité.
Il y a taxé l'électricité.
Mais non, mais si peu.